musique, cinéma, politique, social, environnement, santé, culture, sport. Tous les jours à 12h15 et 19h15, Je vous dis pas, votre magazine d'information locale.
Les jardins du jeudi, c'est sur les lieux. La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 15 juin au jardin de la mer à 18h au bout de la rue du Tardy et aura pour thème comment utiliser ou peut-être se passer des produits alternatifs aux pesticides nommés biocontrôle ou biopesticides. Bonjour Georges Biraud.
Bonjour Roland.
Tu es le président du collectif agricole.
Oui, je suis le président du collectif agricole qui est signataire de la charte pour une île sans pesticides. Donc, je rappelle que la charte elle est signée par 3 associations, l'association Lieu Demain, les croqueurs de pommes, le collectif agricole et la mairie dans un conseil municipal du mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, a approuvé cette charte.
La mairie de Lille-Dieu.
La mairie de Lille-Dieu, oui, ça va sans dire. Alors,
qu'est-ce que le biocontrôle ou le biopesticide?
Oui, ou encore biocide.
Ah oui, mais bon, hein, on ne va pas s'en sortir là, genre.
Ben, tout ça, c'est la même chose. Hein. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que...
Le terme si c'est la même chose, pourquoi 3 termes?
Oui, ben, c'est toujours pareil. C'est parce que les scientifiques et puis l'administration, faut toujours qu'ils inventent des choses un peu différentes. Bon, on n'utilise pas le terme biocide parce qu'on voit bien que dans le terme biocide, il y a cide qui veut dire tuer. Hein. Mm-hmm. Donc,
acide, quoi. Ouais,
ouais donc on n'utilise pas ça. Ça ne va pas ensemble, bio et cide. Ça ne va pas bien ensemble. Bon, biocontrôle, ça veut dire que c'est des produits contrôlés biologiquement, enfin, disons, qui ont une autorisation en général pour l'agriculture biologique.
Des produits naturels dits biocontrôlés.
Oui. Alors.
Tu es d'accord avec ça ou pas? Tu as l'air un petit peu sceptique, oui, non?
Non. Les biopesticides, par contre, ça reste. On garde le terme pesticide. En plus, on rajoute bio. Ça reste toujours des pesticides. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est que de toute façon, qu'ils soient naturels ou pas, un poison reste un poison.
Mmh.
Hein? Et on peut se tuer, un être humain, il peut se tuer avec des poisons tout à fait naturels qui existent dans la nature. Hein, vous pouvez...
Par exemple, les petites boules rouges dans les arbres, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Oui, ça peut être... oui, je ne me souviens plus du nom non plus, mais ça peut être une piqûre de vipère.
Mm-hmm.
Hein, ça peut être plusieurs piqûres de guêpe, ça ne pardonne pas, on peut en mourir. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément absent de toute conséquence pour les êtres humains. Et pour la nature en général.
Mais c'est mieux que les pesticides.
Alors,
c'est beaucoup mieux.
C'est beaucoup mieux parce que ce ne sont pas des produits de synthèse. Ce ne sont pas des produits chimiques de synthèse.
Comme on le disait tout à l'heure, c'est des produits naturels.
Naturels, qu'on trouve naturellement dans la nature, quoi, mmh. Évidemment.
Mais même des êtres vivants, non?
Alors, il y a 4 sortes de produits. Donc, il y a ce qu'on appelle les macro... Alors là, on entre un petit peu dans des définitions un peu scientifiques. Les macro-organismes, donc c'est des invertébrés comme les insectes, les acariens, les nématodes, c'est des insectes assez gros qu'on trouve dans le sol. Les micro-organismes, alors là, c'est plutôt du genre bactéries, virus, mm-hmm. hein, petits champignons. Les médiateurs chimiques, alors c'est tout ce qui va être phéromones, c'est-à-dire... C'est des produits qui vont permettre de tromper les insectes pour les diriger sur des feuilles collantes. En fait, c'est au niveau de la sexualité. Les papillons, par exemple, ils sont attirés par les femelles. Et donc, on va avoir un carton qui va envoyer une odeur de femelle et le mâle va venir se coller dessus. Et donc, on piège. Enfin, c'est des pièges, quoi.
Mmh.
Des pièges à hormones. Et puis le dernier, c'est des substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Donc ça peut être de l'huile, ça peut être du purin d'ortie, ça peut être...
Des algues
des algues, ça peut être des... Enfin, plein de choses hein, qu'on trouve assez facilement. Et c'est celles-là qui sont le plus utilisées, en fait. Hein. Disons, au moins dans les jardins des particuliers, dans le maraîchage, disons, industriel, c'est plus les médiateurs chimiques, là, les phéromones, les micro-organismes, voilà.
Par exemple, l'entreprise Gomard travaille avec les algues.
Oui, alors je ne connais pas l'entreprise Gomard, mais oui, pourquoi pas. Alors je ne sais pas exactement quels sont les produits qu'ils fabriquent derrière. Hein. Il faudrait voir. Bon, moi, ce que je voudrais surtout insister, c'est que ces produits-là, ils ont été mis en avant par les agriculteurs bio et donc tous les organismes qui développent l'agriculture bio. En même temps, évidemment, les industries chimiques se sont
engouffrées dans la brèche.
Bien sûr, en se disant, s'il y a du fric à se faire, autant produire des produits que les gens vont pouvoir acheter, en leur disant, c'est utilisable en agriculture biologique, il n'y a pas de problème. Sauf que, voilà, je répète ce que je disais au tout début, un poison reste un poison. Alors, je voudrais donner simplement quelques exemples. Hein. Dans les fameux micro-organismes, il y a le Bacillus thuringiensis, hein, qu'on appelle le BT, qui est beaucoup utilisé pour tuer les chenilles. Hein, donc, on peut tuer la chenille processionnaire, on peut tuer la fameuse chenille issue du papillon de la pyrite du chou, hein, qui, dans les jardins, mange tous les choux. On peut tuer aussi la chenille qui est issue de la teigne qui mange le poireau. Ce produit-là, il est très efficace. Je l'ai moi-même utilisé. Ça, il faut dire qu'il est efficace. Mais si vous l'utilisez n'importe comment, vous tuez toutes les chenilles, y compris les bonnes.
Il faut savoir utiliser ces biocontrôles ou ces biopesticides.
Voilà. Donc, il faut être mesuré. Il faut, en général, utiliser un peu moins que la dose prescrite. Il faut vraiment pulvériser uniquement sur la parcelle qui est concernée. Le faire plutôt à la tombée de la nuit, de telle sorte que les abeilles ne viennent pas butiner. Elles sont rentrées dans leur ruche. Donc, le lendemain, en général, ces produits-là déjà commencent à s'atténuer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une permanence très longue dans le sol. Hein.
Toi, personnellement, Georges, tu utilises le biocontrôle.
Oui.
Les produits biocontrôle.
Alors, oui, mais...
Depuis combien d'années?
Mais je ne les achète pas forcément.
Tu les fabriques toi-même?
Oui.
Explique-nous.
Par exemple, vous avez un biocontrôle pour tuer les pucerons, etc., qui est à base d'huile de colza. Mm-hmm. C'est-à-dire que quand on achète un produit, il faut regarder
sur l'étiquette.
Sur l'étiquette, pas sur l'étiquette, mais sur le carton, il faut regarder quel est le principe actif. Alors, le principe actif, ils vont vous dire, c'est Bacillus thuringiensis, c'est huile de colza, c'est huile de neem, des choses comme ça. Bon, l'huile de colza, c'est pas compliqué, hein. Il suffit d'en acheter un litre d'huile de colza ou un demi-litre, hein, la quantité que vous voulez. Vous la brassez dans de l'eau. Donc, il faut bien la brasser dans l'eau parce que ça se mélange généralement pas très bien, l'eau et l'huile. Donc, il faut faire une bonne émulsion. Et puis, en général, on va faire un pour 10, quoi. Hein, et vous pulvérisez votre huile de colza sur les pucerons qui vont permettre de diminuer leur importance. Pas forcément de les tuer, mais disons de diminuer leur impact de manière assez forte. Quoi, hein. Les huiles, d'une manière générale, comment elles agissent? Elles agissent de plusieurs façons. C'est-à-dire que, d'une part, le puceron ou la bestiole du genre puceron, eh bien, elle patine avec un peu d'huile. Hein. Donc, elle est mal à l'aise. Donc, elle ne va pas se reproduire à cet endroit-là. En plus, ça a tendance à boucher les orifices. L'huile bouche les orifices et donc, ça va asphyxier le puceron. Il suffit de les faire soi-même. Alors, vous pouvez prendre de l'huile de colza, vous pouvez prendre du savon noir, vous pouvez prendre, qu'est-ce qu'il y a encore dans le même genre, tous les produits un peu huileux qu'on trouve. Alors, l'huile de colza est intéressante parce que dans l'huile de colza elle-même, il y a un produit supplémentaire qui renforce cette capacité d'insecticide naturelle dans l'huile de colza.
Et forcément, l'huile, c'est pas dangereux pour l'homme.
Non, ça, c'est pas dangereux pour l'homme, ni pour les autres plantes. Ça va tuer que... Mais c'est toujours pareil. Hein, à côté des pucerons, vous avez un nid de coccinelles, hein, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tuer aussi les coccinelles. Donc, en fait, il faut intervenir avec des produits, même bio, essayer d'intervenir le moins possible et attendre que la nature s'équilibre elle-même.
Est-ce que les coccinelles font partie du biocontrôle?
Non.
Non, pas du tout.
Bah, si, ça fait partie du quatrième chapitre là, des fameux, dans le biocontrôle, ce qu'on appelle les substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale. Mmh. Et là, c'est directement un animal. C'est-à-dire que, par exemple, les maraîchers vont utiliser des insectes, des bourdons, par exemple, pour aller fructifier les tomates. Bon, bah, il a été une période où on faisait venir des coccinelles par caisse entière, je dirais, pour lutter contre les pucerons. Puis après, mais c'est pas bien de faire ça, parce que ça crée des déséquilibres, automatiquement. Parce que derrière, s'il y a trop de coccinelles, bah, de toute façon, elles vont crever parce qu'elles n'auront pas assez à manger.
Ce que j'ai cru comprendre, c'était des coccinelles japonaises, non ?
Oui, j'ai lu ça. Alors
oui, toi aussi, d'accord.
Ouais, okay. Mais j'en sais pas davantage là-dessus.
Hein, passons.
Voilà. Alors, il y a plein de produits, en fait, qui existent dans la nature qu'on peut faire soi-même. Si vous avez un pied, par exemple, de rhubarbe.
Oui.
Eh bien, les feuilles de rhubarbe, c'est des insecticides naturels. Donc, en fait, il faut faire une macération. Donc, alors, c'est forcément... Il y a toujours de l'huile de coude.
Hein. On est bien d'accord. J'allais te poser la question, oui.
Voilà. Il y a toujours de l'huile de coude. On en a besoin sans arrêt. Hein, parce qu'il faut penser à aller ramasser la feuille de rhubarbe. Il faut ensuite la mettre à soit faire une décoction, soit la mettre à macérer. Ensuite, il faudra la filtrer. Après, il faudra mettre ça dans son pulvérisateur et puis aller pulvériser sur les endroits où il y a des pucerons. Et puis voilà. Donc, c'est évidemment, ça demande une attention permanente dans son jardin. Hein. Si vous allez qu'une seule fois par semaine dans votre potager, évidemment, vous n'y arriverez pas. Parce que dès que vous aurez tourné les talons...
Il faut comprendre la biodiversité.
Oui, la biodiversité et l'équilibre. Mmh. Et ça, c'est une expérience permanente. Et c'est ça qui est très intéressant, en fait. C'est que le jardinier, s'il veut se mettre au bio, il va connaître des échecs au départ, inévitablement. Mais ces échecs sont salutaires. Parce qu'il va comprendre ses erreurs s'il cherche. Puis il va se dire, voilà, j'avais oublié ci, j'avais oublié ça. Donc... Peut-être qu'il faudrait que, pour lutter contre les limaces, j'aurais un hérisson dans mon jardin, ça serait quand même bien. Au moins que le hérisson puisse y venir. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un tas de bois quelque part dans lequel il va peut-être pouvoir nicher et faire ses petits. Et puis il ne faut pas entourer de grillage son jardin, que les hérissons ne puissent pas passer. Donc il faut quelque part faire des petites ouvertures. Et... si vous avez un hérisson, il y a des gens qui me disent « Mais moi, j'ai pas de limaces dans mon jardin. » Ah ben, j'ai dit « C'est super. » Mais je leur dis « Vous n'avez pas un hérisson ?» Elle me dit « Peut-être. Je sais pas. » Alors là, pour savoir si vous avez un hérisson, c'est le soir, en fait. Hein, qu'il faut aller se promener dans le jardin. C'est à la tombée de la nuit. En ce moment, c'est vers 10 heures. Si vous avez des croquettes de chat, vous en mettez quelque part et les hérissons vont les trouver tout de suite. Parce qu'ils adorent les croquettes de chat ou de chien.
Hein. Georges, où as-tu appris toutes ces techniques ? C'est au fil du temps,
je sais. Oui.
Oui.
C'est en lisant, en me documentant, en tentant des expériences. J'ai tenté des choses qui n'ont pas été concluantes. J'ai essayé de faire.
Quelles choses n'ont pas été concluantes.
J'ai essayé de faire des choses avec de l'ail, par exemple. Mm-hmm. Hein. Faire des macérations d'ail et d'huile. Bon, j'ai pas été très convaincu.
C'était pour éradiquer
Les pucerons.
Les pucerons.
Les pucerons. J'ai pas été très convaincu.
Ça n'a pas fonctionné, quoi.
Ouais. Finalement, maintenant, j'ai quasiment plus de pucerons dans le jardin parce que le jardin s'est rééquilibré au bout d'une douzaine d'années.
Et ça fait 12 ans que tu travailles dans le jardin de la mer.
Oui, ça fait 12 ans. Et donc, ça se rééquilibre petit à petit. Et par exemple, les pucerons, ben j'en ai toujours un petit peu, puis je me dis, c'est pas grave. Il faut que tout le monde vive. Tout le monde a sa place. Il faut bien se mettre une chose dans la tête. C'est que si vous éliminez une variété, une espèce d'animal, ça veut dire que quelque part, il y en a peut-être une dizaine d'autres qui vont être impactées par la disparition de cet insecte ou de cet animal. Parce que les autres s'en nourrissent, ou ils en ont besoin d'une manière ou d'une autre.
En t'écoutant parler, Georges, ce rééquilibrage est assez fragile tout de même.
Il est fragile, mais quand il est là, il faut faire quand même des grosses bêtises pour
Quand même des points assez positifs.
Oui. Quand il est là, et puis que vous respectez la nature, Bon, par exemple, il ne faut pas arracher l'herbe partout. Il faut laisser de l'herbe pour que les animaux puissent aller dedans, y vivre. Les orvées, par exemple. Hein. Les orvées, ça mange les limaces, comme les lézards. Mm-hmm. Ça mange les œufs d'escargot. Il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Donc, on peut se poser la question, de quoi vit un lézard, de quoi vit un orvée ? Sans doute un petit peu de verdure, mais ils sont friands des œufs d'escargot. Donc, moi, j'ai plein de murets, je ne suis pas embêté par les escargots. Parce qu'il y a plein de, lézards. Et il y a des orvets. Et des orvets, malheureusement, malheureusement, oui, parce que j'en tue de manière malencontreuse tous les ans. Quand je vide mon compost, il y a toujours 2, 3 ou 4 orvets qui sont dans le compost, parce qu'ils sont bien là, au chaud, et ils aiment bien être là. Et alors, les gens en ont peur, alors que l'orvet, on peut le prendre dans ses mains. En fait, l'orvet, c'est jamais qu'un lézard sans pattes. C'est pas du tout de la famille des serpents, c'est un lézard sans pattes.
Donc, pour toi, le biocontrôle et le biopesticide, c'est plutôt positif.
Oui, c'est positif.
Il y a toujours un mec, Georges.
Oui, c'est positif, surtout pour aider quelqu'un qui veut se mettre au bio. Et qui, pour pas qu'il se décourage, il vaut mieux qu'il utilise des produits biocontrôle, mais qui, en même temps, il apprenne à s'en servir, puis à se dire, mais finalement, peut-être que...
Je peux faire ma détoxion moi-même.
Voilà. Hein, c'est...
Où trouver ces produits biocontrôle, Georges ?
Oh, dans tous les magasins, maintenant. Hein. Oui, Super U, Casino, je n'ai pas été voir Monsieur Bricolage, mais je pense aussi. On les trouve un peu partout. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques marques qui sont un peu connues maintenant. Il y en a une Solabiol, là, qui est connue aussi.
Le biocontrôle, en France, c'est 26 acteurs.
Oui, donc c'est énorme, quand même.
C'est énorme ?
26 acteurs, tu dis ?
Oui.
Oui, donc 26 producteurs de produits.
26 acteurs, oui.
Oui, donc c'est quand même pas mal.
C'est surtout des petites et moyennes entreprises.
Oui, exactement. C'est souvent des petites, parce que comme c'est né des gens...
Et trois grands groupes, voilà.
Ouais. C'est comme c'est parti des gens qui faisaient du bio, ils n'étaient pas nombreux, donc c'est des petites entreprises au départ, plutôt dans... Oui. Et par exemple...
C'est pour ça que tout à l'heure que je te parlais de Gomard.
Oui.
Pour les algues.
Oui, d'accord. Et alors, il y a un truc aussi, je voudrais revenir sur le mildiou, par exemple, hein, qui est une hantise Le mildiou. Le mildiou qui est une maladie liée aux champignons qui va aller détruire les pommes de terre, les tomates, les oignons, les échalotes et tout ça. Hein. Donc, jusqu'ici, on utilise un produit qui s'appelle la bouillie bordelaise. Et la bouillie bordelaise, en fait, c'est du cuivre. Ça, c'est un produit biocontrôle tout à fait naturel, qui est utilisé depuis des dizaines d'années, par ailleurs. Hein. Mais les vignerons qui en utilisaient beaucoup contre les problèmes dans les vignes, les problèmes de champignons, parce que c'est pour lutter contre les champignons, ils se sont rendus compte que dans le sol, ça crée un sacré déséquilibre de cuivre. Et donc,
ce qui est logique.
Ce qui est logique. Et donc, si tu crées un déséquilibre, ça veut dire que tu vas avoir des problèmes ailleurs. Il va y avoir d'autres maladies ou des plantes qui vont mal pousser. Donc, la bouillie bordelaise, il faut éviter de l'utiliser. Et il faut la remplacer par quoi ? Il faut la remplacer par de la décoction de prêle. Alors là, c'est pareil. Hein, vous prenez deux poignées de prêle que vous mettez à bouillir dans 2 litres d'eau. Il faut faire bouillir, enfin bouilloter pendant 20 minutes. Et puis ensuite, on laisse reposer. À ça, on va ajouter à peu près 8 litres d'eau. On mélange tout pendant quelques minutes, il faut bien mélanger pour que l'eau s'imprègne bien du produit. Puis on pulvérise. Alors voilà, les petits trucs aussi. C'est on pulvérise 2-3 jours avant la pleine lune. 2-3 jours avant la nouvelle lune.
Ah mais ça faut le savoir.
Mais tous les calendriers lunaires vous disent ça. Et vous allez sur Internet, vous avez tout ça. Parce que, c'est-à-dire que ça va donner une impulsion à la plante qui va se dire, oh là, si on me donne de la décoction de prêle, c'est qu'il va se passer quelque chose. Il faut que je me garantisse contre un problème qui va arriver. Et donc la plante se fortifie contre le champignon qui va sortir du sol et qui va venir squatter les feuilles de tomates ou les feuilles de pommes de terre. Et à ce moment-là, la plante, elle s'est prémunie contre ça. Elle va empêcher le mildiou de se développer. Donc, c'est en préventif. Et donc, alors en ce moment, par exemple, hein, c'est aujourd'hui la pleine lune, hein, donc c'est trop tard. Il aurait fallu faire ça il y a 3 jours, ce que j'ai fait d'ailleurs. Hein, il y a 4 jours, j'en ai fait une, et puis j'en ai fait 2 jours après. Pour l'instant, je n'ai pas de mildiou. Et ça évite d'utiliser la bouillie bordelaise en préventif. Si vraiment le mildiou s'installait, je referais une décoction de prêle et je rajouterais un petit peu de bouillie bordelaise pas les doses prescrites, hein, beaucoup, moitié moins, même le quart de ce qu'ils prescrivent, mais j'en rajouterai un petit peu pour aider la plante.
Georges, où retrouver toutes ces recettes ? Sur Internet, il y a des livres que tu peux nous conseiller ?
La charte pour une alternative aux pesticides, on a fait 2-3 petites plaquettes. Mm-hmm. Hein. Donc là, il suffit de vous demander au collectif agricole en envoyant un mail. Et puis autrement, il faut aller sur Internet. Il y a plein de sites qui expliquent ça. Il y a des très bons livres aussi qui permettent aujourd'hui de se passer des insecticides et de pouvoir se former soi-même, quoi. Hein.
De toute façon, vous allez former les gens au Jardin du Jeudi.
Alors, voilà. Donc, c'est le Jardin du Jeudi. Ce jeudi 15 juin. Donc, le thème, ça va être ça. Donc, tous ceux qui veulent voir un petit peu comment je fais et puis les recettes possibles, eh bien, on pourra faire ce jour-là une décoction de prêle. On va essayer de faire aussi, de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec l'huile, etc., pour montrer aux gens comment ça fonctionne. Et puis, on lira aussi des étiquettes de produits pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur l'étiquette. Parce que
les étiquettes. Voilà.
Parce que ce n'est pas toujours facile à comprendre.
Hein. C'est le jeudi 15 juin prochain au Jardin de l'Imer. C'est à partir de 18h. Et le Jardin de l'Imer, c'est au bout de
la mer.
De la mer, pardon. De l'Imer. C'était le bateau.
Oui.
De la mer, c'est à 18h au bout de la rue du Tardy. Merci, Georges Bureau.
Voilà, la rue du Tardy qui est une impasse, en fait. Donc, c'est au bout de la... oui, c'est marqué rue du Tardy, mais c'est une impasse. C'est pour ça qu'on dit au bout de la rue. Voilà, et bien...
À très bientôt.
Merci Roland, à très bientôt.
On se retrouve dès demain dans Je vous dis pas, et comme chaque mercredi, c'est spécial ciné avec les films projetés au cinéma. Il est à demain, au revoir.
Je vous dis pas, votre magazine d'information locale, du lundi au vendredi à 12h15 et 19h15 sur Neptune FM.